Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, la mairesse de Montréal, ça va bien, ses affaires. Hey, ouais, c'est le party est pogné à l'hôtel de ville. C'est absolument hallucinant. Alors, je vous explique les faits. Mon collègue ici à Cube Radio, André-Sylvain Latour, a tout un scoop pour vous dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. On apprend que lors du conseil municipal d'hier, la mairesse a passé une bonne partie du conseil municipal à signer sa BD, à dédicacer sa bande dessinée. Bon, on le sait qu'elle a écrit une bande dessinée. Il y a plein de gens qui disaient, est-ce que c'est vraiment pertinent qu'elle prenne du temps alors qu'elle gère quand même la ville la plus importante au Québec? Tu sais, il y a tellement de dossiers en ce moment préoccupants. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Mais là, on est, selon moi, une étape au-dessus. Quand on est rendu que la mairesse de la ville profite du temps où elle est au conseil municipal pour dédicacer des livres, puis elle se lève, puis elle va en porter un à l'autre, puis il me reste plus de livres, puis en way, j'en prends un autre, puis tout ça. Je veux dire, moi, là, quand je suis en train de faire une entrevue avec un invité, ça m'arrive de temps en temps de regarder mon cellulaire parce qu'il faut que je communique avec l'équipe, ou alors je vais prendre une note, mais mon invité, il sent que je suis intéressée à ce qu'il dit. Comment pensez-vous que l'opposition à l'hôtel de ville se sent quand la mairesse de la ville, en plein conseil municipal, est en train de dédicacer son livre? Mais son livre, c'est sa vie personnelle, hein? Ça n'a rien à voir avec son travail de mairesse. Je trouve ça absolument époustouflant de désinvolture, de nonchalance, de déconnexion avec les vrais enjeux, parce qu'il y a des enjeux en ce moment importants dans votre ville, Madame la mairesse. Je veux dire, moi, je veux bien là, la bande dessinée, bravo, félicitations. Mais un petit peu de respect pour les gens dans l'opposition, puis un peu de respect aussi pour les citoyens, parce qu'au conseil municipal, qu'est-ce qu'on fait? On parle des préoccupations des citoyens. Puis si vous êtes en train, moi là, je vais vous le faire, là, je suis en train d'animer, là, puis je suis en train de signer des papiers. Pensez-vous que je suis concentrée sur ce que je fais? Ben non, je suis pas concentrée. Alors, un peu de concentration, Madame la mairesse. Rappelez-vous, là, la ville de Montréal, numéro 1, bande dessinée, numéro 2. Merci, bonsoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Alors, il y a une série absolument passionnante, une série documentaire réalisée par Félix Rose sur la rivalité entre Offenbach et Corbeau qui est disponible en ce moment sur la plateforme Vrai. Et c'est de ça que Nick Payne veut nous parler. Bonjour, Nick Payne.
Bonjour, Sophie.
Toi qui as un passé musical, as-tu déjà œuvré musicalement avec Offenbach ou avec Corbeau?
Non, pas dans ces groupes-là, parce que j'étais un enfant, moi, dans le fond, là, à ces époques-là. Mais par après, oui, j'ai côtoyé parfois sur scène ces musiciens-là. Pas Jerry Boulet, malheureusement, ni Marjolaine Morin. Mais donc, j'ai regardé la série parce que...
Avec intérêt.
Oui, puis ça m'a rappelé, évidemment, toutes ces rencontres-là, fabuleuses, franchement. Puis aussi, là, on est un peu au début du printemps. C'est le moment de l'année où les musiciens s'apprêtent à partir pour les festivals. Mm-hmm. Et puis les moments les plus... Après avoir passé passé l'hiver dans les bars miteux et puis les endroits un peu moins recommandables. Là, tout à coup, c'est la grande fête qui commence. Alors, ça me mettait aussi dans cet esprit-là. Mais donc, excellente série, vraiment. Oui. Ça va même vous tirer une larme à la fin, hein, parce qu'il y a évidemment les questions de l'état de santé de Jerry Boulet, la réconciliation avec Marjo et tout. Alors ça, c'est formidable de revoir ça. Ça vient vous chercher aux tripes. On voit aussi à quel point il y avait du talent là dans ces groupes-là.
Incroyable.
Commençons par Jerry Boulet, qui est un interprète hors du commun, là, qui était habité par... Il vibrait, hein, un peu comme un Joe Cocker, mais en mieux, avec une meilleure voix. Et fait rare. Oui, et puis Ferrar, ce groupe-là se réinvente à un moment donné et réussit à améliorer son capital de talent avec des gens comme Breen Leboeuf et John McGill. Breen Leboeuf, ça aussi, c'est un interprète de calibre, si j'ose dire, international, très, 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 c'est
intense.
Très senti, et une voix de rock absolument magnifique. Par ailleurs, un très bel humain aussi, hein. Tu sais, il y a des gens que, même au Québec, les succès à la mesure québécoise ont changé, là, quand ils ont fait de la musique, ils se sont mis à se prendre pour d'autres. Bon, parfois, dans les médias, ils sont gentils, mais en personne, c'est moins le cas. C'est pas le cas de Breen Leboeuf, qui est vraiment un bel humain, une belle personne qui est restée les deux pieds sur terre puis qui comprend un peu quelle a été toute cette aventure, puis il en parle dans la série. J'y reviens dans un instant. Puis, troisième élément qui est dans cette série, c'est qu'on assiste à la naissance d'un genre. C'est pas anodin, cette affaire-là.
Parce que le rock en français,
le rock
au Québec.
En québécois, à vrai dire, parce que le français littéraire, le français de la France, s'accorde mal avec les formes de la musique rock qui, elle, est née en anglais beaucoup, en bonne partie. Donc, elle est faite pour les rondeurs et les aspects sonores de l'anglais.
C'est ça, parce que quand il dit « faut que je te jouse », parce que pour faire en sorte que ça rime avec blues, là,
faut que je te jouse,
ben ça, c'est pas du français international.
La sacrée le camp, les airs roulés, tout ça. On assiste à cette naissance qui arrive un peu malgré, d'ailleurs, les frères Boulet puis les gars du groupe à l'origine, à cause de Pierre Harel, qui est l'espèce de trublion. Oui, qui arrive, on voit bien que c'est un excentrique, c'est un drôle de phénomène.
Ouais.
Mais c'est lui qui amène le Québécois dans le rock à travers Offenbach. Bon, après, il s'en va. Enfin, il y a toutes sortes d'aventures. Et c'est là que je vais en venir. Après tout ça, moi, je pense que la série passe un petit peu à côté de ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire l'illustration de la rivalité entre Corbeau et Offenbach. Je trouve pas que c'est ça qui est le plus intéressant, moi, dans toute cette histoire-là. C'est le syndrome de Maurice Richard qui a touché ces gars-là. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des acteurs socio-culturels, politiques, même
malgré eux.
Ils voulaient jouer en anglais. Le frère de Jerry Boulet va quitter le groupe au début à cause d'Arel, puis c'est folie de faire de la chanson, du rock en français. Lui, il aime pas ça, puis il n'est pas question qu'il fasse ça. Imagine, ils vont
Et il en parle très ouvertement dans le documentaire. Il dit, c'est quoi ça, cette idée-là, chanter en français?
Écoute, il y a même un moment où le groupe, dans ses jeunes années, ils vont mettre le feu au mobilier d'un bar dont le patron veut qu'il chante en français.
C'est hallucinant.
Et à l'autre...
Ils brûlent les chaises.
Oui, et à l'autre bout de ce grand manège, t'as Jerry Boulet, à la toute fin d'Offenbach, qui décide d'annuler le projet d'un album en anglais parce qu'il dit « C'est pas vrai qu'on va finir notre carrière avec un disque en anglais. » C'est dire tout le chemin qu'il a parcouru. Alors, voici des gars qui sont partis, malgré eux, à la reconquête d'eux-mêmes, de leur propre culture, de leur propre langue. Ça va les emporter, ça va les... Et pourtant, tout le long du parcours d'Offenbach, on essaie de faire un album en anglais de temps en temps. Ça marche pas. Franchement, c'est pas très bon parce qu'ils sont un peu insignifiants en anglais. Tandis que lorsqu'ils chantent en québécois, ça prend toute sa dimension qui est aussi une dimension, et je pense que Breen Leboeuf en parle dans le documentaire, il a bien compris ça, c'est une dimension socio-politique, culturelle. C'est-à-dire que là, vraiment, ils se découvrent. Quand on entendait du Offenbach à la radio, moi, quand j'étais petit ou quand j'étais adolescent ou quand on allait les voir en spectacle, il y avait un élément de fierté québécoise très important là-dedans. Automatiquement, il y avait un drapeau du Québec là, qui s'animait. D'ailleurs, il fallait voir le public, c'était ça beaucoup aussi. C'était la cuirette, les rockeurs québécois, mais québécois là, complètement. Ouais. Et Breen Leboeuf, imagine, un autre élément par rapport à ça, Leboeuf et John McGill, respectivement un Franco-Ontarien et un fier Canadien-Anglais de l'Ontario. Ouais. Moi, j'ai discuté politique avec ces gars-là, là, qui, malgré eux, vont devenir comme ça les acteurs d'un groupe qui est très important dans l'émancipation, dans les suites de la Révolution tranquille, hein, l'émancipation de la culture québécoise, une culture propre au Québec, en français, qui vont même, après Offenbach, reformer le groupe pour, recommencer à vivre puis à faire de la tournée. Voici deux Canadiens, un francophone, l'autre anglophone, qui vont avoir besoin de cette musique en français pour vivre. Hein? C'est comme le contraire. C'est très le drôle. Québec qui a converti des Canadiens et un Canadien anglais à faire de la musique en français. C'est pas banal.
C'est très spécial. Mais c'est surtout
histoire.
Intéressant, mais c'est très, très bien résumé. Et en effet, la problématique, elle est là. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est de se poser ces questions-là ou de voir ce cheminement-là d'Offenbach au moment où la jeune génération, Charlotte Cardin qui chante quasi exclusivement en anglais, qui quand elle s'en va chanter le Haut-Canada le fait en anglais. Et j'avais noté, mais là, ça, il faudrait que je fasse une petite recherche dans mon ordi, puis là, t'aurais l'impression que je te fais un Valérie Plante si je regardais dans mon ordinateur
fais
en même
moi une
temps.
Bande dessinée.
Mais j'ai noté quelque part dans mes notes, en vue d'écrire éventuellement une chronique, la chanson que Laurence Narbonne vient de sortir avec Mitsou, où ils font un clin d'œil à Bye Bye Mon Cowboy, il y a plein de mots, c'est un mélange de français et d'anglais, et je me dis, qu'est-ce qu'il aurait dit Jerry Boulet de ça? Tu sais, lui, il faisait un choix, soit j'écris en français, soit j'écris en anglais, mais les jeunes là, qui font comme des phrases à moitié dans l'un, à moitié dans l'autre, et tout, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ça?
C'est le débat d'ailleurs qui entoure le choix de Aya Nakamura en France pour chanter aux Olympiques, parce qu'elle fait espèce de musique, de slang, de trucs en franco, anglo, machin. Ouais. Bon. Mais je ne sais pas ce qu'aurait pensé Jerry Boulet, celui, le jeune Gérald Boulet ou voilà. Jerry Boulet plus tard, probablement deux choses différentes. Mais ce qui me fait penser à un autre élément qui est super intéressant, et ça, c'est plus dans le sillon que creuse habituellement Félix Rose, c'est que c'était des gars, des fils d'ouvriers, hein, et qui vont, encore une fois ici, en mettant le pied dans cette espèce de train qui va les amener plus loin que prévu, séduire et attirer vers eux des grands paroliers, Pierre Huet, après ça, Plume la Traverse, Michel Rivard, qui eux, pour plusieurs d'entre eux, venaient de milieux plus bourgeois, plus proches un peu de la politique et tout ça. Alors, c'est fascinant, ça aussi. Absolument. L'ascenseur social par la musique a fonctionné dans leur cas.
Mais je trouve ça très important aussi que, tu sais, il y a beaucoup de gens de la plus jeune génération qui pensent qu'ils sont une génération spontanée puis qu'avant eux, il n'y a jamais rien
avant
eu.
Avant 2012,
que,
c'était
né. C'est ça. Avant 2012, de se pencher.
C'était comme dans les pays d'en haut.
Oui, c'est ça. Non, mais de se pencher sur ça parce qu'à un moment donné, je pense que c'est Pierre Harel à qui Félix Rose demande « Ouais, mais vous brassiez la cage ou vous, tu sais, vous étiez provocateur puis tout ça. » Puis Pierre Harel répond quelque chose comme « Est-ce qu'on peut être autre chose que provocateur? »
Ah, ça, c'est une ambiance. C'est un état d'esprit. C'est une autre génération.
Tu sais, mais je sais pas, je regarde, mettons, Hubert Lenoir, là, qui est beaucoup aussi, enfin, on en parle moins ces temps-ci d'Hubert Lenoir, mais tu sais, des jeunes qui sont dans la provocation, mais tu sais, vous avez rien inventé. C'est le fun que vous le soyez, mais vous avez rien inventé. Il y en a d'autres qui sont passés avant vous et qui étaient peut-être plus dérangeants, plus audacieux, qui prenaient plus de risques.
Ah oui.
Parce que ils avaient pas peur, eux, de choquer, puis les conséquences étaient peut-être plus grandes à l'époque. En tout cas, un bon rappel historique, cette série-là, Offenbach versus Corbeau, disponible sur Vrai. Merci beaucoup, Nick Payne.
Avec plaisir. Merci.
Faut que je te jauge.
Ouais. Faut que je me pousse.
Faut que je me pousse.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
Quel genre de parents êtes-vous? Est-ce que vous êtes des parents hélicoptères, toujours en train de surveiller ce que font vos enfants? Est-ce que vous en faites trop pour vos enfants? C'est un petit peu de ça qu'on va parler, avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
Salut Sophie. Dans ce cas-ci, on va parler des parents gonflables. On parle souvent des voisins gonflables.
Oui.
T'as une piscine, je veux une piscine. Il y a une balançoire, je veux une balançoire. Mm. Il a refait faire son asphalte, je veux le refaire faire la mienne. Bref, on va parler de ça, mais juste avant, je veux parler de où ça part. C'est de la Fondation Lucie et André Chagnon, que vous connaissez peut-être pas, parce que souvent, ils sont pas très flashy. Ils font pas ça pour que ça paraisse, tout ça, mais ils font énormément de bien dans la société, entre autres pour la pauvreté. Puis moi, j'ai participé quelques fois avec eux parce qu'ils ont un grand volet famille. J'avais participé et ils nous sensibilisaient déjà à l'importance du livre chez l'enfant au lieu du film, au lieu des tablettes comme on a aujourd'hui. Puis ça fait déjà un bon petit moment. Puis ils avaient fait une campagne publicitaire pour ça. Et donc, ça a mené à Naître et Grandir, qui est un magazine, qui est un site Internet, qui est distribué dans plusieurs CPE qui paraissent sur le web. Vous allez voir, si vous faites une recherche, que ce soit pour, mon enfant a le Terrible 2, si vous faites mon enfant a des cauchemars, vous allez souvent aboutir sur un lien qui vous amène à Naître et Grandir.
C'est vrai.
Puis, c'est parti d'eux. Et hier, en écoutant la partie de hockey, à un moment donné, il y a une publicité qui m'a fait rire, mais rire. Et je me demandais de où ça partait. Et c'est de Naître et Grandir, donc de cette fondation-là. Et ça parle des parents gonflables. On peut peut-être en écouter un extrait. Vous
Absolument.
Allez voir, là, c'est génial.
Puis, comment se passe le congé avec bébé?
Ah, cours de natation, motricité, yoga bébé pleine conscience, on prend ce relax.
Nous, on fait aussi de l'éveil sensoriel puis de l'éveil à l'anglais.
Of course!
Nous, on fait de l'éveil sensoriel, de l'éveil à l'anglais puis de l'éveil à l'éveil.
L'éveil à l'éveil.
Ah, pas d'éveil musical. Nous, on lui a fait écouter du Mozart dès la grossesse puis aujourd'hui, j'en ai vraiment très éveillée.
Nous, on a vendu 2 œuvres de Charlie Aristote au Musée des Beaux-Arts.
Oh, c'est tellement important d'être cultivé avant la naissance.
La culture intra-utérine.
Exact.
C'est pour eux qu'on fait ça.
Nous, on lui a appris le langage des signes pour bébé pendant la dernière poussée.
On lui chante l'alphabet à l'envers.
On lui chante ses comptines en latin.
Ah, les langues mortes.
C'est des Grecs. X, W, B, T, S.
C'est très drôle quand t'as dit frater Jacobus au lieu de dire frère Jacques. C'est à se faire pipi dessus. C'est vraiment très drôle et c'est une façon aussi de nous faire réfléchir. Est-ce qu'on en fait trop? C'est vraiment ça. Il y a matière à réflexion. C'est drôle. C'est osé comme publicité.
C'est très, très osé, mais en même temps, je veux dire, c'est une belle façon parce qu'on se reconnaît quand même là-dedans. On exagère. Je pense pas que les parents exagèrent à ce point-là, mais de l'avoir poussé comme ça nous ramène quand même dans le visage.
Il y en a des comme ça, là.
Il y en a des comme ça. Mais là, j'espère pas à ce point-là, là, mais il y en a. Il y en a qui sont proches de ça, qui se relancent. Puis on sait tous, en tout cas, moi, je me souviens que ma conjointe, de temps en temps, on s'est dit, Krim, eux autres, ils font telle affaire puis telle affaire avec leurs enfants ou pour leurs enfants ou sont inscrits à là, puis là. Est-ce qu'on devrait, nous aussi, inscrire les nôtres? Puis là, à un moment donné, il faut que tu te parles, puis il faut que tu te calmes. Puis la phrase à retenir beaucoup là-dedans, c'est on le fait pour eux autres.
Non.
Non.
Vous le faites pour vous autres. Ouais,
oui,
tu le fais pour montrer. Mais tu sais, tu te rends compte aussi, ben toi, tes enfants sont plus vieux que le mien a 16 ans. Tu te rends compte que toutes ces patentes-là, là, tous ces cours, tous ces trucs de démonstration, puis de machingus, puis tout ça, il y a une seule affaire qu'il faut. Et en fait, c'est pas vrai, il y a deux choses. Il y a l'amour et la fierté.
Mm-hmm.
C'est juste ça. C'est pas leur donner des cours de ci puis des cours de ça, c'est leur dire qu'on les aime et leur dire qu'on est fiers d'eux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
Mais après ça, si votre enfant a envie de se mettre au piano, il a le droit de se mettre au piano. Là. Puis si le mien a fait du hockey, ma fille a fait
du
gymnastique.
Oui, du moment que t'as la base. Que t'as la base. Si t'as l'amour, la fierté, tu fais tout le reste après. Mais si tu fais tout le reste et que t'as pas l'amour et la fierté, c'est un coup d'épée dans l'eau, là.
Oui, mais en vouloir en faire des petits chiens savants, parce que c'est un peu ça, là. Tu sais, on veut qu'à 3 ans, ils soient capables de lire l'alphabet, puis de compter jusqu'à 10, puis de dire des mots en anglais, puis ça devient notre espèce de fierté. Puis là, on va dans une réunion de famille, puis là, ça se relance. Ah, ben, le mien, regarde ce qu'il fait, puis le mien, regarde ce qu'il fait. Tu sais, moi, je me souviens, quelqu'un dans mon entourage, son enfant marchait tard.
Ben oui, ça se peut.
Oui. Mais il en était presque complexé.
Ah,
là,
ouais.
Les gens, au lieu d'être compatissants, dire, ah, ben, il n'y a pas de 13 mois, là, c'est pas grave là, qu'il marche pas à 13 mois. Au lieu de ça, les gens faisaient, en tout cas, le mien, 10 mois, il marchait.
Ah oui, c'est la surenchère, c'est pénible.
l'espèce de surenchère, effectivement, qui puis se relancer d'un parent à l'autre, puis ça devient complexant.
Et tu sais quoi? Les pires là-dedans, c'est les femmes. Les mères entre elles, là, c'est épouvantable. Moi, les pires commentaires que j'avais sur genre, il est pas assez ci, puis il est trop ça, puis as-tu fait ci, puis as-tu fait ça. La pression que les femmes se mettent les unes sur les autres, c'est absolument épouvantable.
Ouais, je pense que ça vient du fait que, entre autres, on n'a plus beaucoup d'enfants. Fait que là, on a un, deux.
Ouais,
là,
donc là, on se définit par ça.
Ça devient nos espèces de trophées.
Voilà, exactement.
Des fois, au lieu. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, puis là, vous allez dire, tes enfants, ils ont été inscrits, les gens qui me connaissent, à plein d'affaires, tu sais. Mais on avait quand même beaucoup de temps en famille, parce que ça aussi, c'est important, du temps. Tu sais, quand ton enfant, il est à la natation, il n'est pas avec toi. Là. Après ça, tu le prends de la natation, puis tu l'amènes au piano avec ton prof de piano, il n'est pas avec toi. Après ça, tu l'amènes du piano, puis il n'est toujours pas avec toi. Fait que tu penses que tu fais plein de choses pour lui, alors que probablement que ton enfant préférerait de loin passer du temps à faire du casse-tête, un jeu de mémoire, à aller jouer au parc avec son père puis avec sa mère. T'sais. Mais on a tendance à vouloir leur... On pense qu'on leur donne plus en faisant ça, alors que c'est pas vrai. Et le moment de quand ils sont jeunes, de s'émerveiller par eux-mêmes, là, d'être dans leur salle de jouets, puis que là, à un moment donné, avec des petites autos, ils se fassent un monde dans leur tête, c'est sain aussi. Là. C'est très bon pour
une
eux.
Une salle
pour
de jouets? As-tu dit une salle de jouets? Une salle au complet dédiée à des jouets?
Ben, moi, il y avait comme une petite pièce.
Toi, c'était dans l'aile droite ou dans l'aile gauche du château?
Non, il y avait une petite pièce en bas, là, où est-ce que toutes leurs bébelles étaient. Ça évitait d'en avoir partout dans la maison. Mais le point, c'est qu'on veut pas les laisser, on dirait, à rien faire.
Ben
on dirait
oui.
qu'on a l'impression d'être des mauvais parents quand ils sont à rien faire.
Pogner le moineau, c'est une excellente façon d'élever un enfant aussi. Hein?
Oui, puis là, vous allez vous rendre compte que hey, ils ont pris telle affaire, puis là, ils se sont fait un monde avec ça, et c'est très, très sain. Puis surtout, si vous en avez deux, ils vont se mettre à jouer ensemble, puis à se relancer, parce que des fois, quand on a deux, papa est avec un des deux enfants sur un côté, maman est avec l'autre de l'autre côté, puis là, ça finit qu'on se voit pas de la fin de semaine, on s'est déjà pas vu de la semaine parce qu'ils sont au service de garde. Bref, c'est un bel éveil de conscience sur... Puis d'ailleurs, c'est comme ça que la publicité finit, là, on n'a pas joué jusqu'au bout. Il y a une maman qui, elle, fait « Hey, moi, savez-vous quoi? » je prends ça relax, là. Je le laisse se développer à son rythme, puis finalement, il joue du piano au bout en arrière, le petit garçon, parce qu'il l'a appris, parce que ça lui tentait. Fait que grosso modo, là, c'est la morale de l'histoire.
Non, c'est vraiment, puis j'aime ça aussi qu'on utilise le biais de l'humour pour se moquer des parents, tu sais, parce qu'habituellement, là, c'est comment, mon Dieu, il ne faut jamais rien dire et tout. Puis là, bon, c'est évidemment, il y a un couple, c'est deux papas. L'autre, c'est un couple, elle est blanche, lui est noir. Alors, c'est comme...
Ah, il y a de tout. Là.
On rit aussi un petit peu. C'est un petit peu... on rit gentiment, évidemment. Mm-hmm. Mais c'est la publicité parfaite avec des petits couples parfaits et tout. Tout à fait, qui coche toutes les cases de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, je trouvais ça quand même assez audacieux de la part... La Fondation. Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention. Je ne l'avais absolument pas vu passer. Ça doit être parce qu'on ne regarde pas le hockey en même temps. Ou peut-être que je ne regarde pas le hockey pantoute. Merci beaucoup, Jean-François. Je suis contente de te faire rire.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
Quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, qui est un scoop de Radio-Canada, je me disais, ben voyons, c'est un poisson d'avril, c'est impossible qu'il fasse ça. Radio-Canada, donc, qui révélait il y a quelques semaines déjà que la SAQ détruisait carrément des bouteilles qui étaient tout à fait propres à la consommation. Pourquoi elle détruisait ces bouteilles-là? C'est que c'est des bouteilles d'importateurs privés qui entreposaient les bouteilles à la SAQ, puis au bout d'un certain temps, ben la SAQ disait bon ben là ça fait assez longtemps là puis donc vous pouvez soit récupérer les bouteilles mais vous aurez pas le droit de les vendre soit nous on va les détruire. Donc on détruisait des bouteilles de vin parfaitement parfaite. Et parce qu'il y a eu ce reportage-là de Radio-Canada qui dénonçait la situation, la SAQ a annoncé donc qu'elle ne détruirait plus les bouteilles propres à la consommation. J'avais envie de parler tout ça avec Pascal Guéritz, il est copropriétaire de l'agence Primavera. Monsieur Guéritz, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous faites partie donc des propriétaires de compagnies d'importation privée dont les bouteilles auraient été détruites par la SAQ à un moment donné?
En fait, deux choses. Je ne suis plus copropriétaire de Primavin, là, c'est tout récent.
Ah, ben ça commence bien.
D'accord. Je suis quand même très au courant de ce qui se passe.
Oui.
Mais on a toujours été, on a été chanceux. Nous, on n'a pas eu de bouteilles qui ont été détruites, mais c'est effectivement une pratique qui est acceptée là, et assez courante là, à la SAQ. Ouais.
Donc, vous êtes en train de me dire que dans le milieu du vin, tout le monde le savait, mais personne osait le dénoncer publiquement. Les gens savaient que la SAQ régulièrement détruisait du stock de vin propre à la consommation.
Oui. Puis c'est pas tant que ça n'a pas été dénoncé. Ça a été dénoncé, mais je pense que ça n'a jamais vraiment percuté là, l'inconscient collectif. Là, ouais. Là, maintenant, c'est sorti. Ça fait un peu de bruit, là, mais il y a beaucoup de choses comme ça là, à la SAQ qui passent sous silence.
Ouais.
Puis qui tombent pas vraiment dans l'œil du public, là, disons. Là.
D'accord. Mais ce que la SAQ faisait de détruire des bouteilles propres à la consommation, il reste quand même que dans le milieu du vin, vous dites, on ne l'a pas dénoncé en tant que tel, on en a parlé, mais ça n'a pas percuté le grand public. Peut-être parce qu'on ne se rendait pas compte, nous, de l'ampleur que ça prenait. Puis ça a pris ce reportage-là de Radio-Canada pour que ça prenne, pour qu'on se rende compte de l'ampleur de la chose. Mais vous ne trouvez pas ça absurde, M. Guéritz, que la SAQ dise, bon, ben, telle bouteille, finalement, au lieu de, tu sais, on est tanné, ça fait trop longtemps, on va la prendre, mais on va la détruire. Mais je veux dire, amenez-en, donnez-la-moi. La bouteille, je vais vous la déguster, il n'y a pas de problème.
c'est un exemple parmi plusieurs exemples, des incohérences de ce système-là. Nous qui travaillons avec la SAQ, on vit ça au quotidien, là, des aberrations comme ça. C'est complètement absurde. Puis effectivement, là, tout à coup, ils disent « Ah, ben OK, les gens sont au courant, ben on va arrêter. » Tu sais, mais je veux dire, pourquoi ils ont détruit des bouteilles dans le passé autant? Je veux dire, c'est complètement absurde. Le vin est fait pour vieillir, là.
Ben, voilà. Et s'il y a quelqu'un qui le sait, qui doit le savoir, en tout cas, c'est bel et bien la Société des alcools. Vous avez raison. Le vin, pas tous les vins, évidemment, mais le vin normalement. Puis là, c'est mon petit accent bordelais qui remonte à la surface. Mais le vin a pour propriété, justement, de s'emmiéter avec le temps. Je veux dire, c'est ce qu'on dit tout le temps. Donc, là, c'est un peu contre-productif de faire ça. Ah, je pense que M. Guéritz a disparu. Ah, vous êtes encore là, d'accord. Quand vous dites que c'est une absurdité, une aberration parmi plusieurs absurdités et aberrations de la SAQ, c'est juste que dans ce cas-là, Radio-Canada a fait un reportage là-dessus, donc on en entend plus parler. Ce serait quoi d'autres exemples d'absurdité ou d'aberration à la SAQ, selon vous, M. Guéritz?
Ben, tu sais, il y a une grande aberration, en fait, à la base, c'est que c'est un organe du gouvernement qui est complètement implanté dans la vie quotidienne des Québécois. C'est totalement accepté, mais en fait, c'est une structure qui nous vient de la prohibition. C'est une structure qui n'a pas du tout été créée pour ce qu'elle fait maintenant ou ce qu'elle tente de faire maintenant. La plupart des gens considère la SAQ comme des boutiques, mais c'est pas des boutiques, c'est pas du tout ce qui... Tout le monde va à la SAQ acheter des bouteilles de vin comme ils vont acheter des bibelots ou des revues ou des magazines, tout ça. Mais leur mission à la base, c'est pas du tout d'être des boutiques comme ça, c'est de contrôler la vente de l'alcool. Et puis, ben ça, en fait, selon moi, c'est une aberration. C'est la grande aberration qui fait en sorte que quand il arrive des choses comme ça, des surplus d'inventaire ou du vin qui traîne trop longtemps, la seule stratégie qu'ils ont, c'est de détruire des bouteilles qui sont encore propres à la consommation, voire meilleures que quand elles sont rentrées. Donc, ils peuvent pas avoir un réflexe commercial normal de dire, bon, on va les vendre à rabais, ces bouteilles-là, ou on va faire autre chose avec, on va... Parce que, comme c'est un immense organe gouvernemental, ben, ils ont la santé publique aussi, qui est pas loin, qui a pas nécessairement envie que la SAQ se mette à vendre tout à 50%, vendre de feu, buvez plus de vin. Donc, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce sur à peu près tout ce qu'ils doivent faire. Donc, ça crée des situations comme ça qui sont absurdes, mais qui sont juste acceptées simplement là, depuis trop longtemps. Ouais.
Est-ce que vous trouvez que quand on parle de la SAQ, il y a trop, comme les deux options, les gens qui disent « Ah, il faut complètement que ce soit privatisé, il faut fermer la SAQ, puis il faut qu'il y ait juste des propriétaires privés de boutiques de vin », et d'un autre côté, les gens qui disent « Bon, ben il faut absolument, au contraire, renforcer la SAQ », on a l'impression qu'il n'y a comme pas de demi-mesure. Moi, dans un monde idéal, il y aurait une cohabitation entre, oui, la SAQ et plein de petites boutiques avec des gens qui sont, mettons, un qui est spécialisé dans les vins italiens, l'autre, c'est les vins français, puis que ce serait des spécialistes, puis qu'on irait les voir, puis nous dirait, ben, des importateurs privés, évidemment. Il me semble que les deux pourraient cohabiter, non?
Absolument. Je pense que c'est un modèle qui est préconisé par beaucoup d'acteurs de l'industrie, par des experts aussi qui veulent rassurer la population qu'il n'y aurait pas une perte de revenus là, au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement aime beaucoup la SAC parce qu'ils aiment recevoir
c'est une vache à lait. Chaque année. Une c'est vache ça, à pinot noir.
Oui, exact. Ben, ça serait tout un modèle intéressant. Dans tous les cas, on est vraiment dû là, pour une réflexion profonde sur le rôle de la SAQ, sur la façon dont ils distribuent le vin. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui craignent une libéralisation totale du marché, parce qu'il y a quand même certains types de concurrence qui verraient ça comme un marché vierge, le Québec, là, puis qui pourraient faire en sorte de prendre trop de contrôle. Mais oui, je pense qu'il y aurait vraiment moyen là, d'être un peu plus ouvert sur la façon dont les choses se font, puis dont les alcools sont distribués. Puis d'ailleurs, ça fait partie des propositions qu'on avait faites, nous, quand on avait justement eu conscience là, de l'excédent de stock à l'entrepôt. C'était, ben laissez-nous racheter notre propre vin et laissez-nous le revendre simplement. Parce que, je veux dire, on peut pas juste racheter du stock, puis... dormir dessus.
C'est ça, parce qu'il faut le rappeler, hein, Monsieur Guérit, il faut le rappeler aux gens, c'est que la SAQ vous disait aux gens, ben, si vous voulez, vous pouvez, en effet, au lieu que nous, on le détruise, vous pouvez récupérer votre stock, mais vous n'avez pas le droit de le vendre. On a l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix, là. C'est hallucinant, cette histoire-là. Et je ne comprends pas que les gens ne soient pas plus scandalisés que ça. Moi, je suis cette histoire-là depuis le début. Je capote ma vie, puis je trouve que les gens sont comme, ah, oh, hein, ben, c'est la SAQ. Ah, ben oui, ils détruisent des dizaines et des dizaines de milliers de bouteilles de vin qui, non seulement sont encore bonnes, mais sont même meilleures que quand elles sont rentrées à la SAQ. Ben, coudon, c'est comme ça que ça marche, la SAQ. Voyons.
Ah, puis ça nous donne un drôle d'air internationalement là. Je veux dire, les vignerons européens, les vignerons partout dans le monde, ils sont au courant de ça, là. Ils le voient là. Puis pour eux, c'est, je veux dire, pas d'aberration tantôt, c'en est une aberration là. Eux, ils s'arrachent les cheveux là quand on leur explique ça.
Êtes-vous sérieux?
Ah oui.
Donc on fait rire de nous partout à travers le monde parce que la SAQ détruit des bouteilles qu'on serait très très content de boire là. Il y a aucun problème de santé là, c'est pas du tout une question de santé, c'est une question d'entreposage.
Oui, puis je veux dire c'est du vin qui a été payé, hein. Je veux dire c'est du vin qui a été payé par notre argent, je veux dire, dans le sens, c'est l'argent du gouvernement. vraiment, c'est, sinon, c'est, il y a beaucoup, il faut gratter un peu plus, je pense sur tout ça, parce que ça, c'est, en ce moment, là, c'est sûr, là, ça sort, mais il y a un paquet de trucs, là, au niveau de la SAQ, là, qui est pas, comment dire, qui est pas super, qui est aberrant, en fait, qui est pas très efficace, qui est pas à l'avantage non plus, certainement, là, des Québécois.
Ben là, c'est ce que je retiens. Ça n'est absolument pas à l'avantage des Québécois. Donc, je note quand même, M. Guéritz, que vous nous invitez, nous, comme journalistes, la grande fraternité des journalistes, à continuer à fouiller ce genre de dossier-là. Il y a sûrement beaucoup de perles qui se cachent dans les dossiers de la SAQ. En tout cas, ça, c'en est toute une, la SAQ, qui pendant des années a détruit carrément des dizaines et des dizaines de milliers de bouteilles propres à la consommation. Et donc, à cause de ce reportage, ou grâce à ce reportage de Radio-Canada, la SAQ a annoncé maintenant qu'elle ne le ferait plus, qu'elle ne va plus détruire ces bouteilles-là. Merci beaucoup, M. Guéritz. Alors, vous n'êtes plus copropriétaire de l'agence Primavin, mais vous faites quoi maintenant?
Je suis entre deux chaises.
Ah, OK, je pensais que vous alliez me dire, maintenant, je travaille à la SAQ.
Ouais, la SAQ.
Ça aurait été drôle quand même. Bon, peut-être. En tout cas. On sait pas. Merci beaucoup, Monsieur Guéritz.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
À partir de demain sur Crave, vous allez pouvoir voir un documentaire que j'ai regardé, que j'ai trouvé absolument passionnant, un documentaire sur l'Ozempic. Ça s'intitule « La piqûre de la minceur ». Et dans ce documentaire, on retrouve entre autres un témoignage de Nathalie Simard qui, elle, l'a dit publiquement qu'elle prend du Ozempic. On écoute un petit extrait du documentaire.
Oui. Je me prenais de ma poulet, je gavais les frites, tout le kit. Puis après ça, j'allais me faire vomir. D'autres fois, j'arrêtais au dépanneur. J'achetais des Kit Kat, des aéros, des caramels. Après ça, je me faisais vomir. Ça a été ça pendant quelques années. Mais ça, je le disais pas, tu sais, j'en parlais pas à personne.
Alors, elle est très courageuse, en effet, de parler publiquement de ça, mais le débat sur l'Ozempic est pas terminé et il sera certainement pas terminé. Au contraire, il va être ravivé avec ce documentaire, donc disponible à partir de demain sur Crave. On va en parler avec Dr. Rémi Rabassal-Lorec, qui est endocrinologue, vice-président de l'Institut de recherche clinique de Montréal, président du Conseil professionnel de Diabète Québec et qui est longuement interviewé dans le documentaire. Dr. Rabassal-Lorec, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on doit craindre l'Ozempic? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Ce serait quoi votre verdict général pour commencer sur l'Ozempic?
Je ne crois pas qu'on en parle trop. Je crois que c'est le ton du débat et la nature pour ou contre, sans toutes les nuances qui sont nécessaires en médecine, c'est... Il y a des patients qui bénéficient de cette molécule qui a été bien établie et ainsi de suite. On a un consensus sur le fait que dans le traitement du diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente de diabète, à peu près 9 patients sur 10 ont cette forme de diabète. C'est une molécule qui peut être utile, qui contrôle très bien le taux de sucre, qui est au centre du contrôle du diabète, mais qui peut aussi, dans une grande fraction des patients, réduire le risque de maladie cardiaque. Donc ça, pour ça, on pense qu'il y a un grand consensus là-dessus.
D'accord.
On peut discuter un peu du fait qu'il y a eu une montée très rapide quand le médicament est devenu accessible et remboursé par la RAMQ, mais si on prend une pause puis qu'on réfléchit pour ces patients-là, ben une fois qu'un médicament est accessible, les médecins et les patients s'en servent, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Là où le débat devient très, très polarisé, c'est est-ce que si on va en dehors du diabète de type 2, mais dans le cadre de l'obésité, parce que la molécule a aussi un effet sur le poids, est-ce que là, il y a une utilité? Et là, les réseaux sociaux se sont emparés de ça. On a Elon Musk qui en parle, Kim Kardashian, Oprah et des gens plus proches de nous au Québec. Et là, on rentre dans un débat qui est quasiment un débat de société. Puis comme dans les réseaux sociaux, on est pour ou on est contre, soit pour parce qu'il le faut absolument, soit contre parce que, soi-disant, l'obésité est une maladie de gens faibles, ce qui est faux. C'est une maladie génétique qui rencontre un certain mode de vie qui est le nôtre. Il y a des gens qui sont pour en disant que leur vie a changé très bien, d'autres qui sont complètement contre en disant que l'obésité se traite pas avec des médicaments ou il y a des effets secondaires. Donc, c'est là que le débat devient complètement illogique.
D'accord, je comprends. Et j'apprécie énormément le fait que vous mettiez toutes ces nuances-là qui sont importantes. Une des questions qui est soulevée dans ce documentaire-là, qui est réalisé par Émilie Ricard-Harvey, qui elle-même a été confrontée à toutes sortes de questionnements par rapport à son poids. On pose la question dans ce documentaire, est-ce qu'il faut perdre du poids? Et j'aimerais vous entendre là-dessus, docteur Rabassa-Loret, parce que il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent on ne peut pas être obèse et en santé, et il y a d'autres gens qui disent on peut parfaitement être obèse et être en santé. Comment on s'y retrouve là-dedans?
Alors, une fois de plus, c'est une réponse qui va être difficile, mais c'est important de discuter ça. Je vous remercie qu'on puisse en parler et puis que ça fasse éventuellement réfléchir les auditeurs.
Voilà.
Oui, on peut être en surpoids ou obèse et être en parfaite santé. Puis je vais prendre un exemple. Des gens en surpoids ou obèse qui sont physiquement très actifs ont généralement une meilleure santé, par exemple en termes de risque de diabète ou de maladie cardiaque, que des gens de poids normal qui ne font jamais d'activité physique.
Ah, donc, ça c'est intéressant. D'accord.
Il est possible d'être en surpoids ou obèse et de ne pas avoir de problème de santé. Ceci dit, on ne veut pas, c'est un grand thème du documentaire dans lequel je suis intervenu, hein, c'est vraiment Madame Émilie Ricard-Harvey qui a fait les choix qu'elle a fait, et puis je trouve que le documentaire est intéressant, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est tout à fait, à mon avis, c'est un excellent documentaire pour lancer les choses. On ne peut pas non plus, on doit dire donc, pas de grossophobie, et oui, on peut être obèse en santé, on ne peut pas nier en même temps que l'obésité est à la source d'au moins une quarantaine de maladies qu'on pourrait classer en trois grands paquets. Il y a des maladies physiques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, l'apnée du sommeil. Il y a les maladies mécaniques, il y a des gens qui souffrent de leurs genoux, de leurs hanches reliées à leur surpoids important. Et il y a aussi des aspects psychologiques et de santé mentale très importants reliés à l'obésité. Donc, on ne veut pas de grossophobie, on peut être obèse et en santé. En même temps, dans certains cas, par exemple, si je suis en surpoids important et que je vis avec le diabète, on ne peut pas nier que perdre du poids va énormément améliorer le contrôle du diabète. Donc, voilà. La réponse, c'est oui, non dépendant du patient.
Oui, mais en même temps, c'est passionnant. J'adore discuter avec vous parce que c'est très pondéré et tout ça. J'adore ça. Le problème que moi j'ai, c'est qu'au cours des derniers mois, des dernières années, si on tient le discours de dire « obésité vient avec un risque accru d'une quarantaine de maladies », le fait de dire ça, on se fait traiter de grossophobe. Et c'est là que moi, je dis, il faut pouvoir faire preuve de nuance. On a le droit de dire que l'obésité est associée avec des maladies sans se faire traiter de grossophobe. Il faut distinguer les deux.
Je suis 100% d'accord. Je crois que c'est un des grands mérites du documentaire de lever le débat, puis il lève un autre débat qui est de dire, après une soixantaine d'années où on a eu une absence de médicaments efficaces pour aider à l'obésité, parce que ce n'est certainement pas un traitement de première ligne, les médicaments de l'obésité. Les traitements de l'obésité reposent sur trois grands piliers.
Allons-y.
La nutrition qualité et quantité, l'activité physique et la santé mentale. Puis des fois, les patients s'engagent dans les trois en même temps. Des fois, par choix, ils vont vers l'un ou vers l'autre. Une fois que ces trois piliers ont été testés raisonnablement, si les gens ont des problèmes de santé importants, mettons quelqu'un qui aurait une apnée du sommeil importante, qui dort pas bien, qui a besoin de la machine, qui la tolère pas bien, et ou quelqu'un qui a du diabète, de discuter d'une intervention en supplément du mode de vie bien fait pour aider à perdre du poids avec une molécule qui a démontré une bonne efficacité et une bonne sécurité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec l'Ozempic. C'est pas du tout ça que je dis. Ça veut pas dire qu'il faut le donner à tout le monde. Mais il est tout à fait concevable que dans certains cas, on puisse prescrire une molécule dans la mesure où on a un mode de vie bien prescrit avant, qui ne suffit pas pour aider le patient. Et là, les évidences sont très fortes que dans certains cas, une molécule peut être utile. Donc, il y a grossophobe, pas grossophobe, parler de l'obésité. Mais une fois qu'on est dans l'obésité, il y a un autre débat qui est absolument pas pacifique actuellement sur les réseaux sociaux. C'est est-ce qu'il y a une place pour les molécules? Et la réponse est oui. Chez certains patients, il y a une place pour les molécules pour les aider à perdre du poids, pour améliorer un problème de santé. Pas pour les aider à perdre quelques kilos ponctuellement. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais avant
de partir des fêtes. Voilà.
Pour entrer ou avant les fêtes et ainsi de suite. On parle ici d'un problème de santé, qu'il soit physique, mécanique ou mental, qu'on va aider à travers ça. Et après ça, on doit aussi dire que c'est un molécule qui est extrêmement cher et que donc il y a un enjeu de budget pour la société.
Absolument.
Non,
voilà, tout à fait. Écoutez, j'ai adoré cette conversation. Je vous remercie d'y avoir participé de façon intelligente et équilibrée et respectueuse. Docteur Rémi Rabassa-Loret, vous êtes endocrinologue et vous êtes vraiment très mise en valeur dans ce documentaire qui est très bien fait, très intéressant, avec une diversité de points de vue. La piqûre de la minceur qui va être diffusée demain à Crave. J'encourage tout le monde à participer à cette réflexion-là, puis arrêtons de nous traiter les uns les autres de phobes ceci, puis de phobes cela. Ayons du fun, plus de fun et moins de phobes. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est un crime contre l'humanité.
Il y a deux points de tension énormes
qui pourraient dégénérer et finir
par un conflit mondial.
C'est des choses qui sont possibles.
Normand Lester.
Normand Lester, tu vas nous parler de notre sujet de conversation préféré. Puis je sais que c'est le sujet de conversation préféré aussi des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On va parler de Donald Trump, mon cher ami Normand.
Oui, ben Donald Trump, comme tu le sais, hier, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président fait face à des accusations criminelles. Et bien sûr, tu as vu aussi les médias américains couvrent ça mur à mur. Aujourd'hui, il y a une pause, mais donc, on va reprendre demain. On en est au processus de choisir là les membres du jury. Mais il y a aussi, donc si on regarde ça, on voit que la campagne de Trump actuellement est en train de s'essouffler. Je ne sais pas si tu as vu, mais là, Biden collecte plus d'argent que lui la campagne. Et lui fait face, parce qu'en plus donc des causes criminelles contre lui, comme tu sais, il a été condamné une première fois à 5 millions de dollars de remettre à la journaliste de magazine féminin E. Jean Carroll, et puis après lui avoir donné 5 millions de dollars en dommages et intérêts, il a fait une nouvelle déclaration contre elle, et là, le juge l'a condamné à 81 millions de dollars d'amende supplémentaire. En plus de ça, donc dans une autre cause qui n'a rien à voir avec cela, mais à New York, bien sûr, Trump et ses enfants et les membres de sa famille ont fait des fausses déclarations continues au fisc de l'État de New York pour, bien sûr, sous-évaluer leur parc d'édifices à New York afin de payer moins de taxes. Alors là encore, on est allé au fond des choses, on a sorti les documents, et là encore, et cette fois-ci, le juge l'a condamné à 454 millions de dollars d'amende qu'il doit rembourser à l'État de New York. Trump a contesté et là, il y a quelqu'un qui a abaissé à 175 millions la somme là, qu'il a dû déposer en attendant qu'il y ait un jugement final dans ce cas-là. Hein, tu vois que c'est terrible. Et là, bien sûr, il y a cette cause-là qui est encore une fois dans l'État de New York. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il a essayé, c'est une cause criminelle, il a essayé d'acheter le silence d'une actrice porno ou d'une prostituée. Des fois, je vois pas trop la différence entre les deux, là. Il s'agit de vendre du sexe dans un cas comme dans l'autre. Et là, il y a même l'avocat, son ancien avocat Michael Cohen, qui lui a déjà été condamné et est déjà allé en prison pour avoir donné cet argent-là à l'actrice porno.
Alors,
évidemment, il y a des preuves substantielles et des documents écrits des transferts d'argent entre Trump et Cohen. Ça aussi, Trump ne pourra pas s'en sortir. Alors, et bien sûr, il est passible à une légère peine de prison parce qu'il n'a pas fait ça seulement avec une femme, il a fait ça aussi avec une autre actrice de Playboy, et il a fait ça, semble-t-il, et ça risque d'être des révélations qui vont être faites là, durant le procès. Il y a d'autres femmes, mais ce qui est épouvantable aussi, c'est qu'il a fait ça alors que sa femme, Melania, venait d'avoir son garçon, Baron, qui avait entre 3 et 4 mois. Alors, t'imagines, il va y avoir des témoignages faits à la télévision. Déjà, Trump avait des problèmes avec l'électorat féminin. Alors là.
Ça va pas aider.
Ça va pas aider du tout. Et dans les sondages, oui.
Oui, non, mais j'allais dire, il a des problèmes, entre autres, depuis qu'on a su la fameuse phrase, la grab them by the pussy, là.
Oui,
il voulait pas dire, il voulait pas dire le petit minou là, il voulait dire l'autre sorte de minou. Et donc il y a beaucoup de femmes. Mais en même temps, c'était ça la question que j'allais te poser, Normand. Dans quelle mesure, toi qui analyses ça, dans quelle mesure ces questions-là de morale, dans quelle mesure l'électeur pro-Trump, dans quelle mesure ça l'intéresse et dans quelle mesure il dit ça n'a rien à voir, je vais voter pour lui de toute façon.
Non, ben vraiment, c'est devenu une secte religieuse, hein. La tromperie, là, c'est une secte religieuse.
Oui, c'est comme un gourou.
Ben oui, exactement. Mais les femmes sont vraiment affectées quand ils sont plus choquées que les hommes devant les révélations qui vont être faites maintenant. Mais en plus ça, encore hier, il y avait des informations qui sortaient que si Trump réussit à être élu, eh bien, il envisageait d'immédiatement déclarer la loi martiale aux États-Unis. Hein, puis on le sait, là, il y a une équipe de fous, de fanatiques autour de lui, parce que durant son premier mandat, la plupart des gens dans son entourage essayaient, bien sûr, de limiter ses folies. Hein, puis ils sont tous venus, depuis qu'il a perdu, venus dire « Oui, heureusement que j'étais là, parce qu'il aurait fait... » quelque chose de bien plus épouvantable, c'est moi qui l'empêchais. Ben là, tout son entourage, là, c'est les gens comme lui. Alors, c'est pour ça que ça va être extrêmement dangereux. Et si tu veux avoir une idée de ce qui risque d'arriver...
Rapidement.
Et si les gens qui nous écoutent veulent faire... Il y a un film qui vient de prendre l'affiche qui s'appelle Civil War.
Ben
et
oui.
Et ça dit les États-Unis dans une guerre civile en...
Absolument. 20... Alors, j'ai juste vu la bande-annonce de 30 secondes et j'en ai fait des cauchemars. Alors, je pense pas aller voir le film tout de suite. J'ai pas besoin. De toute façon, je regarde la télé en ce moment avec ce qui se passe, ou ce que j'imagine qui va se passer aux États-Unis. Et je trouve que c'est...
Si tu ne vois pas durant le film, tu vas le voir en réalité.
Exactement. Absolument.
Mais ça risque d'être vrai.
Merci beaucoup, Normand Lester. Je rappelle que tu es blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Marianne Bessette et Maxime-Émile Sayeux à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci et à demain. Cube.